Hey Steve, je peux la faire à ta place, la présentation?
Ouais, vas-y, vas-y.
Ok. Salut, je suis Steve.
Et moi, je suis Monsieur Anybody.
Et vous écoutez Comics Weekly.
C'est l'épisode numéro 3, et déjà, ça part bizarre. Donc...
Oui, parce qu'au fait, voilà, c'est moi, Monsieur Nebunny, mais vous l'avez compris. Enfin, voilà. On fait un petit joke comme ça, on essaye de faire comme les Simpsons au début, maintenant. On essaiera de faire un petit joke toutes les semaines. Donc déjà, bon bah voilà, faudra qu'on trouve.
Ouais, on va pas trop s'avancer à toutes les semaines parce que ça
Non, mais
risque d'être
justement,
difficile.
voilà.
Mais ouais. Donc vous comprendrez bien que c'est en une seule prise, hein, donc pas de droit à l'erreur. Et du coup, même s'il y a du montage après, on laisse. Donc, comme d'habitude, maintenant, pour la troisième semaine, on s'occupe de ce qui sort en cette semaine numéro 22 aux États-Unis en termes de comics qui sont sortis une journée en retard pour certains dû à une journée de commémoration aux États-Unis, donc certains comics sont sortis un petit peu en retard. On a cru qu'on allait pas recevoir nos comics à temps, mais finalement c'est bon, donc un petit peu
Donc nous, au fait, on n'est pas en retard. Voilà.
ouais, bon, on n'a pas eu exactement
C'est
tout ce qu'on
l'important.
voulait, mais
Nous,
bon,
on n'est jamais en retard.
voilà. Donc
Ce
cette
qui est faux.
fois-ci on a un petit peu, ouais, on a du retard de temps en temps. On a un petit peu de DC, un petit peu de Marvel et un petit peu d'un autre éditeur, et seront contents les gens qui souhaitent qu'on parle de temps en temps de autres petits éditeurs. Et donc là, cette fois-ci, c'est le cas. Avant de commencer nos reviews, comme d'habitude, on va faire quelques petites news. Et donc bah, là, cette fois-ci, je vais te laisser commencer, Benny,
Ah d'accord.
pour les news. Donc au choix.
Bah écoute, on va commencer par Joe Quesada, non?
Allons-y.
Alors Joe Quesada a été nommé Chief Creative Officer pour Marvel.
Pour
Donc
Marvel Entertainment, et c'est là qu'il faut le préciser justement.
voilà. Donc en quoi ça va consister? Au fait, Joe Quesada a été déjà créatif en chef des divisions de publication et d'animation.
Ouais.
Et maintenant, il devient responsable du traitement des personnages Marvel à travers tout ce qui est produits dérivés, donc les films, les séries télé, les jeux vidéo, les figurines, par exemple, aussi.
En gros, ça devient Monsieur Marvel, quoi.
Ça devient Monsieur Marvel, un peu comme Jeff Jones, quoi, qui est devenu Monsieur DC, il y a quelques temps, quelques
Non,
semaines.
parce que en fait, Geoff Johns coordonne simplement les publications comics. Là, lui, il a la main mise sur tout ce qui est extérieur du comics. Bon, bien sûr, le comics aussi, mais ce qui est extérieur au comics, et ça, c'est super important. C'est-à-dire que Joe Quesada aura le droit de mettre son nez dans toutes les adaptations de films, dans toutes les adaptations de dessins animés, dans toutes les adaptations en jeux vidéo, et ça va être énorme.
Ouais, là c'est vrai que ça lui confère encore plus de pouvoir qu'il n'en avait déjà. Joe Quesada, qui d'ailleurs, selon mes informations personnelles, a déjà une grande baraque en face de Central Park, et ben il pourra peut-être s'en acheter une deuxième pendant que nous, bah, on galère.
Peut-être même faire construire dans Central Park, tellement il aura de
Ouais, voilà, non mais
pognon.
c'est vrai parce que ce mec-là est plein aux as alors qu'il nous fait des merdes comme One More Day, etc. D'ailleurs, on va en reparler bientôt puisque cet été va sortir One Moment in Time sur Spider-Man par Joe Quesada, donc on en reparle très vite.
Et qui devrait être la fin du One More Day, apparemment.
Voilà. Donc une grosse grosse nouvelle, une grosse promotion pour lui, c'est vraiment Monsieur Marvel, c'est pratiquement le successeur de Stan Lee, quoi.
Ah bah ça devient Stan Lee 2, quoi.
Ça devient Stan Lee 2, ouais, carrément, c'est vrai. Ouais, c'est ça, au fait, ça devient le nouveau Stan Lee.
Mais je pense que cette promotion vient en particulier des exécutifs chez Disney qui s'occupent de la branche Marvel maintenant. Et comme ça marche bien, selon eux, avec Joe Quesada aux commandes depuis maintenant plus de 10 ans, je pense qu'ils l'ont nommé pour l'ensemble, étant donné que bah voilà, vu qu'il a eu des bons succès, pourquoi tuer la poule aux œufs d'or et prendre quelqu'un d'autre qui sera moins compétent, qui connaîtra pas forcément autant les licences, autant qu'il y ait une seule personne qui est déjà apte à gérer, qui s'occupe de tout. D'un côté, ils ont raison, ce qui est dommage, c'est pour les gens qui n'apprécient pas forcément Joe Quesada et ce qu'il fait en termes de
Bah l'idée
décisions
quoi, de
qu'il
toute
prend,
façon.
voilà, les décisions qu'il prend pour Marvel. Là, c'est sûr que maintenant, il n'est pas prêt de partir. Ou alors il fait un burn-out d'ici un an parce que ça fait beaucoup trop de choses à gérer et il est obligé de lâcher. Mais
Bon,
ce serait
enfin, que
la seule
connaissant Joe
solution.
Quesada, enfin connaissant Joe Quesada, je veux dire, on le connaît par internet, etc. On connaît un peu le personnage, ça m'étonnerait, quoi. Moi, je le vois pas.
Ouais. Il y a sûrement des, un peu comme Stanley avait à l'époque, des exécutants
Oui, sans doute aussi, hein, de toute façon.
qui étaient totalement dans l'ombre. Je pense que lui aussi doit avoir beaucoup de choses qu'il délègue, mais qu'il est la face de Marvel. Donc, et en termes de relations publiques et de marketing, le mec est très très fort. Ça, par contre, on ne peut pas lui enlever. Maintenant, ses
Oui, non, c'est
décisions
clair que
sont
c'est
des
des années
fois.
fastes, hein, à partir de son arrivée, c'était vraiment bon pour Marvel. Par contre, c'est sûr qu'on est un petit peu moins fan de ce qu'il fait à certains personnages, quoi, que je ne nommerai pas, de toute façon, tout le monde le sait. Voilà.
Ok, on va rester chez Marvel avec l'annonce d'une nouvelle série de Millar, encore une.
Oui, un nouveau Creator Owned par Millar et Lenny Liu, Lenny Francis Yu, donc de Secret Invasion. Et ça s'appellera Superior. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien alors, en fait, il y a plusieurs teasers. Donc, je te
Oui.
donnerai le lien, on mettra les images peut-être sur Comic City,
On
je ne
va
sais pas.
essayer, ouais.
En tout cas, on va vous les fournir. Sur les images preview, c'est des espèces de photos, au fait, par exemple, une vue de New York, ou bien des gens dans la rue qui pointent le doigt en l'air. On voit, enfin, c'est marqué, tout le monde l'attendait.
Une photo d'enfants maltraités, enfin pendant dans un pays en guerre avec plus jamais ça. Enfin.
Ouais, voilà, et puis c'est marqué, un héros va naître, il va tous nous sauver, et puis à la fin, sur le dernier trailer, c'est marqué Superior. Voilà.
C'est prévu pour sortir en octobre 2010, normalement chez Marvel, hein, d'après ce que
Oui,
je
il
l'ai
y aura
vu.
une preview, je crois.
Dans le Wizard numéro 228.
Exactement, qui sortira le 28 juin. Alors, qu'est-ce que c'est Superior? Alors, on imagine que c'est un pseudo Superman. Alors, je sais pas si ce sera là, Irredeemable ou quoi que ce soit d'autre, mais de toute façon, il y en a eu tellement des pseudo Superman ces dernières années que, bon,
Bon,
enfin
puis
voilà.
bon, après la version Batman dans Nemesis, maintenant il nous fait Superman, il va nous faire tout le cast DC, comme ça le prochain c'est qui? C'est Flash.
Je sais pas, mais en tout cas, moi je pense à un truc quand même depuis un certain temps. Alors ça va peut-être encore faire couler beaucoup d'encre ou les oreilles des gens qui nous écoutent. Je ne sais pas, mais je pense que Mark Millar, voilà quoi. Progressivement, il va passer de mode. Je pense qu'on a eu le gros du pic, au fait, avec Kick-Ass, et que là, ça va retomber, vraiment comme un soufflé, quoi. Déjà,
Bah,
Nemesis.
je sais pas, moi certains, ce que d'après ce que j'ai lu, certains pensent que Superior serait un moyen pour lui de, comme avant que Kick-Ass sorte, il était déjà en projet pour une adaptation cinéma, là pareil, certains pensent que y a des chances qu'avec Superior, il y ait une autre adaptation en ciné.
Oui, enfin, quand bien même, moi je pense qu'il était vraiment à son top avec l'adaptation de Kick-Ass, et maintenant c'est avec la chute.
Les
Bon, enfin, on
gens
verra.
qui écoutent Comic City régulièrement savent ce que moi je pense de Millar. À de rares exceptions, j'aime pas trop ce qu'il fait, donc j'engage peu d'espérance avec cette série.
Non, mais
Donc
même
pour l'instant.
au-delà de ce qu'on pense de lui, je pense que le mec va décliner progressivement. Et voilà, déjà avec Nemesis, je pense pas que Superior sera extraordinaire et remportera un succès fou. Je peux me tromper, hein, on verra.
Ouais.
L'avenir le dira.
On continue avec Twilight chez Marvel.
Ouais, Twilight chez Marvel, puisque la mode va être aux vampires bientôt, hein. On a eu les Skrulls pendant pratiquement un an. Et bien maintenant, c'est l'invasion des vampires. Alors en fait, ça va commencer dans Death of Dracula, donc un one shot, il me semble,
Oui, un one shot qui est prévu pour le 30 juin, d'après ce que j'avais lu.
Voilà, où ça va montrer un petit peu bon, en fait, le retour des vampires dans l'univers Marvel avec la mort de Dracula.
Ce
Qui
sera
arrive
écrit
au
par
début.
Victor Guichler, qu'on voit partout d'ailleurs en ce moment chez Marvel.
Bah oui, et justement, et pour cause, puisque au fait, Victor Guichler va se charger de la nouvelle série X-Men, hein, X-Men numéro 1, et ben les X-Men vont se retrouver face à des vampires, justement.
Ce qu'ils
Donc
appellent Curse of the X-Men.
voilà, ils arriveront à San Francisco, ils vont donc attaquer les X-Men, semble-t-il. Il va y avoir différents types de vampires, on nous annonce. Alors je ne sais pas ce qu'ils entendent par différents types de vampires. On sait aussi que les vampires seront présents dans les gammes Avengers, donc dans les Avengers il y aura aussi du vampire chez Bendis, ou chez Brubaker en tout cas. C'est parti pour durer au moins 18 mois, donc on va en bouffer.
Oh putain, ça va être long. Si c'est bien, tant mieux, mais si c'est pourri, ça va être très long.
Voilà, et donc Dracula aura toujours une place importante, même s'il est mort. Et pour le moment, il est dit que les vampires ne vont pas s'allier à d'autres vilains, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire, mais enfin voilà, pour le moment c'est pas prévu, quoi. Ce sera vraiment les vampires contre le reste des héros, quoi. Donc je sais pas vraiment ce que ça va donner. Pour moi, alors attention, peut-être la blague la plus pourrie de tous les temps de Comics Weekly et de Comic City. Pour moi, je dirais c'est des comics qui vont partir aux toilettes.
Ouh, alors. Il m'a fallu 2 secondes pour la comprendre.
Oui, bah voilà, donc c'était sans doute la blague la plus foireuse de tout Comic City.
Depuis il y a des chances, ouais, parce qu'alors là, dans le genre jeu de mots approximatif, ouais.
Donc voilà, je remercie tous mes fans nombreux, ma famille, mon chien qui n'existe pas, et ma future qui existe peut-être. Voilà. pour ce grand moment d'émotion.
C'est, oui, comme on disait au début, hein, c'est en une prise et on s'emballe. C'est bon. Surtout qu'il y en a qui dorment pas la nuit et du coup ils sont fatigués après.
Ouais, voilà, c'est surtout ça en fait. J'ai dormi 2 heures depuis très longtemps en fait, depuis 24 heures je crois, plus de 24 heures maintenant. Donc voilà, donc, on peut pas toujours sortir des blagues top, hein, même si on sort toujours des blagues foireuses d'ailleurs. Bref, passons, allez, la suite.
Allez, dernière news, il y a eu un marathon sur la BBC America de Doctor Who et Star Trek. La semaine dernière, et pendant les pubs, les Américains ont eu l'occasion de voir une pub TV pour Fabla. Et donc c'est quasiment une première, puisqu'il n'y a eu qu'une seule autre pub à ma connaissance de comics à la télé, c'était pour promouvoir Secret Invasion, donc là une pub, ouais, pour Fable, et notamment pour les TPB.
Il n'y en avait pas eu pour Civil War par exemple ? À ta connaissance?
En pub télé, je sais pas, je crois pas. En même temps, je peux me tromper, comme j'habite pas aux États-Unis, voilà, d'accord, c'est plus difficile. Mmh. Donc voilà, je mettrai le lien en même temps que sur la news pour que vous puissiez voir la pub. Très sympathique, efficace, une trentaine de secondes.
Fable, dont on fera un spécial, on consacrera un spécial à Fable très prochainement d'ailleurs.
Oui, normalement, si tout va bien, en juillet. Pas de date précise pour l'instant, mais de toute façon, comme on essaye de prévoir un par mois, on va essayer de faire ça en juillet. Bien, c'est tout pour les news de cette semaine. On passe maintenant à la double review. Et la double review de cette semaine, c'est le gros événement Marvel Cosmic avec la sortie de Thanos Imperative numéro 1. Le scénario est de Dan Abnett et Andy Lanning. Les dessins sont de Miguel Sepulveda. C'est une mini en 6. Et c'est ce qui va de nouveau bouleverser une fois de plus l'univers cosmique.
Ouais, et puis le clôturer malheureusement peut-être.
Bah déjà toutes les séries sont arrêtées, toutes les séries cosmiques, enfin toutes. Il y en avait quoi, 2 régulières, il y avait Nova et Guardians.
Ouais, mais qui étaient excellentes quand même.
Qui étaient excellentes. Ouais. Nova s'est arrêtée au numéro 36, Guardians s'est arrêtée au numéro 25 avec le retour de Thanos. Il y a 2 semaines je crois, on a eu c'était peut-être un peu plus. Ça fait peut-être 3 semaines. On a eu Thanos Imperative Ignition, qui est un one-shot qui faisait un petit peu le lien entre ces séries, et notamment Guardians of the Galaxy et Thanos Imperative. Et donc maintenant, voici le début de cette espèce d'event, qui est très réduit d'ailleurs, hein, parce que je ne crois pas qu'il y ait des mini-séries qui tournent autour cette fois-ci.
Ouais, d'après ce que j'ai compris, c'était juste un event en 6, quoi, en 6 parties. Donc, il est allé sur 6 mois, mais ouais, sans tie-ins particulier, puisque comme tu le disais, bah ils ont clôturé toutes les séries. Et je pense que après, pendant des années, pendant quelques mois en tout cas, les séries risqueraient d'être en hiatus, quoi.
À moins que le hiatus soit de quelques mois pendant Thanos Imperative et qu'elles reprennent ensuite. Ça, c'est aussi possible. Mais
je pense que ça dépendra vraiment de l'accueil que font les lecteurs à cette mini. Hein.
Mais vu que c'est prévu en 6, de toute façon, les sollicitations, généralement, on les a 3 mois à l'avance, donc on saura à peu près si le retour se fait quand sortira le 3e par là, le 3e ou 4e épisode. On verra bien s'il y a un retour de cet univers cosmique ou non. Déjà, franchement, vraiment bien. Vraiment bien. Moi, j'ai vraiment trouvé ça excellent.
Ouais, bah c'est toujours du Dan Abnett et Andy Lanning, donc c'est toujours très très plaisant à lire. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a énormément de persos puisqu'ils ont utilisé tous les gens qu'ils avaient sur lesquels ils avaient travaillé, quoi. Ouais.
C'est vrai qu'on pourrait en avoir vite marre de toutes ces batailles spatiales, parce que entre Annihilation, bon, Annihilation était écrit par Keith Giffen, donc voilà, mais ensuite on a eu Annihilation Conquest, on a eu un petit peu Secret Invasion, mais ça c'était très rapide, on a surtout eu War of Kings, ensuite c'est devenu Realm of Kings, bon, là encore un gros event, ça commence à faire beaucoup d'events en si peu de temps finalement, parce que c'est en l'espace de 3 à 4 ans, et finalement...
Mais en même temps, oui. Enfin, en même temps, tu vois, c'est un univers, le Marvel Universe, on va dire, enfin la partie cosmique, fonctionne vraiment comme ça, quoi. Fonctionne à coup de gros events et tant que ça marche, tant que c'est bon, j'allais dire, puisque c'est vraiment toujours très bon, pourquoi ne pas continuer, hein, à la rigueur.
Oui, bah voilà. Et puis le fait que ce soit qu'une seule série, qu'on n'en ait pas acheté 4 ou 5, quoi. Déjà, il y a aussi ça qui fait qu'on peut plus facilement se laisser séduire.
Ouais.
Pour résumer un petit peu, donc Thanos est de retour, il a été ramené à la vie, enfin en tout cas redécouvert dans le Guardians 25.
Ouais, en fait il était
dans le cocon,
dans un état végétatif, on va dire.
Bah, il était dans le cocon de cette espèce d'église de la vérité. Je sais jamais comment ils l'ont traduit en français, mais enfin bon. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a ce fameux Cancerverse, comme il l'appelle, qui est un univers parallèle au nôtre, où on a quasiment les mêmes personnages qui y résident, mais dans lequel la mort est morte.
Oui, oui, voilà, et du coup, c'est tout le concept.
Voilà, et la vie a gagné, et donc plus personne ne meurt. Ouais. Et donc l'univers s'étend, et il n'y a plus de place. Alors ça casse un petit peu cette idée d'univers infini. Là, l'univers est plein à craquer et du coup, ils ont besoin d'un autre univers. Ils ouvrent une brèche, toutes ces brèches que les Guardians cherchent à refermer depuis le début. Il y a une grosse brèche et la brèche se casse. Et l'univers, ce fameux Cancerverse, se répand dans notre univers pour justement récupérer de la place. Oui. Mais dans cet univers, la mort est toujours là et donc le but va être de détruire la mort pour eux, afin de pouvoir s'implanter dans notre univers, et pour les gens de enfin quand je dis notre univers, l'univers Marvel, quoi, et l'univers Marvel va essayer d'empêcher cette chose là
ouais, et donc du coup il y a les Avengers, au fait la version d'Avengers de cet univers qui débarque, surtout
les Revengers.
Ouais,
mais on croise déjà quelques personnages de ce monde alternatif, et on a pas mal de monde, et d'ailleurs le chef de ce monde alternatif, c'est Lord Marvel, un Captain Marvel noir, on va dire.
Ouais, moi je l'ai trouvé vraiment très intéressant, ce personnage-là.
Bah, il est super majestueux, en plus, il est vraiment bien rendu.
Bah, disons qu'on n'a pas envie de, enfin tu vois, on n'a pas envie de garer notre voiture sur sa place, quoi.
Bah, quand on voit avec la facilité avec laquelle il a détruit Magus dans Ignition, on se dit mais la puissance, quoi, c'est impressionnant.
C'est vraiment le mec qu'il faut pas faire chier, quoi. Voilà. Et franchement ça augure de très bons moments, mais donc ce sera en 6 parties. Alors est-ce suffisant? Je pense que ouais, enfin en tout cas c'est pas excessif, quoi.
Non, c'est pas excessif, on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura une suite, finalement, les choses seront peut-être pas résolues à la fin et que ça débouchera sur autre chose. Ça reste à voir. En tout cas, pour le moment, premier épisode, super intéressant. Pour moi, c'est définitivement un bail.
Ouais. C'est un très bon comics. Par contre, pour ceux qui ne seraient toujours pas rentrés dans cet univers cosmique Marvel...
Alors là, je le déconseille.
Ouais, voilà. Déjà honte à eux, et surtout non, franchement on vous conseille vraiment de vous intéresser à cette branche qui est vraiment extraordinaire, et depuis quelques années Nova et Guardians of the Galaxy sont vraiment d'excellentes séries.
Mais alors surtout ne commencez pas par Thanos Imperatif si jamais vous avez jamais lu d'univers cosmique, parce que vous allez être perdu. On a Thanos, on a les Guardians, on a Nova, on a Quasar, on a les Shi'ar, on a les Kree, enfin il y a tout l'univers cosmique.
Ouais, puis en plus ça va vous spoiler vraiment tous les bons trucs qu'il y a eu ces dernières années. Enfin, ça va vous spoiler une partie des intrigues. Donc, ne commencer plutôt par autre chose. D'ailleurs, je sais que Panini va ressortir en fait Annihilation en big book. Non, pas en big book, en deluxe, je crois.
Oui, et puis sinon, il y a toujours les TPB américains qui sont pas forcément très très chers, qu'on peut trouver un peu partout.
Voilà, ouais, pour ceux qui lisent l'anglais, et bah, de toute façon, voilà. Si vous écoutez Comics Weekly, c'est vrai que, oh quoique, il y en a qui doivent aussi l'écouter pour savoir ce qui se passe, et qui aiment les spoilers, les petits spoilers, ou les petits teasers en tout cas. Donc voilà, donc, en tout cas un bail, ouais.
Définitivement un bail. Ok, on passe au review solo, cette fois-ci c'est moi qui commence, et je commence avec JC All-Stars numéro 7. Donc deux histoires, l'histoire principale plus un co-feature comme d'habitude dans cette série. L'histoire principale est écrite par Matthew Sturgis, les dessins et l'ancrage sont de Freddie Williams III. Donc bah là c'est un épisode plutôt calme, centré vraiment sur Jodo Master qui fait en fait l'éloge funèbre de Damage qui a péri pendant Blackest Night. Bon, il lui avait laissé un message que Sandman lui remet, un message holographique sur une clé USB. On sait pas trop la taille de la clé, mais pour faire un hologramme, ça va prendre de la place. D'accord. Bref, bon, c'est pas super super transcendant quoi. C'est sympa, franchement c'est sympa à lire, mais ça casse pas des briques. C'est vraiment un épisode petit, voilà. Le backup est de Jan Van Meter, Travis Moore au dessin et Dan Green à l'ancrage. Bah là, c'est la suite des aventures de Liberty Bell et Hourman qui se sont associés avec Icicle et Ty Grace de l'Injustice Society.
D'accord.
À la recherche de ce fameux bâton de vie. Bon, c'est de la traduction littérale, hein, c'est comme ça. Là, ils se retrouvent donc à Paris, puis ils cherchent la suite des indices pour retrouver ce fameux bâton. Moi, je suis pas. Enfin voilà, il tombe après sur un personnage qui peut se transformer en gaz, qui s'échappe, qui reviendra sûrement les ennuyer. Et puis, bah, les gens d'Injustice Society étant ce qu'ils sont, il y a de la petite trahison dans l'air, quoi. Bon, moi, j'ai pas été franchement emmené par ce backup. J'ai préféré l'histoire principale. Alors déjà que l'histoire principale est pas top. Voilà. Les dessins, par contre, font très très super-héros classique. Donc voilà, ça se laisse lire, c'est pas transcendant. Pour moi, c'est définitivement un check-it si on aime la JSC, ou voire même un pass si on n'aime pas plus que ça, et que voilà. C'est pas une histoire qui restera en mémoire, et voilà, on peut passer très rapidement. Donc maintenant, c'est à toi.
Oui, alors moi j'ai pris le Avengers Prime numéro 1. Donc le scénario est de Brian Michael Bendis et on retrouve Alan Davis au dessin. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Alan Davis. Alors c'est le premier numéro d'un arc en 5, si je me souviens bien, une mini en 5. Et au fait, on retrouve Captain America, Iron Man, enfin le vrai Captain America, Steve Rogers.
Steve Rogers, ouais.
Ouais, l'original, comme je dis. Iron Man et Thor, juste après Siège. Alors en fait, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est que ça se situe juste après Siège, mais Steve Rogers a déjà été nommé, au fait, comme remplaçant de Norman Osborn. Alors que bon, je sais pas s'il vient pas de l'apprendre dans Avengers numéro 1.
Dans Avengers numéro 1, ça me donnait l'impression qu'il le savait déjà depuis un petit moment, qu'il était déjà fait à cette idée, quoi.
D'accord, ok. Bon, dans tous les cas, là, ce qui marque dès le début, c'est y a un échange assez virulent entre Iron Man et Captain America, et Steve Rogers, et où ils se reprochent un petit peu tout ce qu'ils ont fait ces dernières années, etc., etc. Alors, ce qui m'avait marqué lors de Avengers numéro 1, c'était justement qu'ils avaient l'air d'être super potes, qu'ils avaient oublié les anciens différents qui les avaient opposés, et puis du coup que maintenant ils repartaient sur de bonnes bases. C'était vite expédié. Je me disais oui, mais enfin bon, enfin voilà quoi, c'est un peu bizarre. Et au fait, là, Bendis prend le temps de nous montrer au fait leur explication.
Donc grosso modo, ce serait ce qui se passe entre Siege et entre Avengers numéro 1.
Bah
c'est
voilà,
vraiment en fait, placé entre les deux quoi.
C'est ce que je l'ai pris comme ça en tout cas. Ça doit être effectivement cette chronologie là. D'autant qu'Iron Man a son ancienne armure, celle qu'il porte à la fin de Siege, si je me souviens bien. Et donc ils ont une explication assez houleuse et Thor met les holas, hein. D'ailleurs, quand
il met les marteaux sur les têtes.
Voilà. Quand Thor parle, généralement on l'écoute. Et du coup, ils partent tous les trois à travers les ruines d'Asgard. Et Thor les emmène au fait à travers, ils sont aspirés à travers un espèce de portail qui les amène qui les sépare tous les trois et qui les amène donc dans Asgard. Et là, ils vont faire face à une menace qui n'est nulle autre que quelqu'un que je vais pas révéler d'ailleurs, puisque ça se termine d'ailleurs sur la révélation de qui est cette menace. Grosso modo, ça se lit très vite, il se passe pas grand chose. Ça vaut surtout donc pour la première scène, je te dis, cette espèce d'explication entre Iron Man et Captain America où la Bendis se fait plaisir. Comme il sait bien le faire généralement avec les dialogues de ce type-là. Voilà quoi, c'est assez plaisant. Que dire, c'est la Trinité version Marvel un peu. Hein,
oui, exactement. Ouais.
Donc c'est un micro Trinity chez Marvel. Est-ce que c'est un bail? Non, franchement, c'est pas un bail. À part pour les dessins d'Alan Davis, qui sont vraiment. Là, il est vraiment au top. Hein, franchement.
D'ailleurs, c'est la toute première collaboration entre Davis et Bendis.
En plus, ouais, d'ailleurs, peut-être, effectivement. Même sans doute, puisque même certainement, puisque effectivement Davis, ça fait longtemps que je l'avais pas vu à l'œuvre. Un check-it pour les complétistes, on va dire, ouais. Et ceux qui ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe entre Siege et Avengers numéro 1. Mais voilà quoi, un check-it pour la première scène, mais sinon je suis pas sûr que le reste de l'aventure soit vraiment utile.
Bah je sais, c'est pour ça, enfin au début on pensait le faire en double review, mais finalement moi c'est vrai que ça m'intéressait pas du tout, donc c'est pour ça que finalement on a choisi Thanos Imperative.
Voilà, qui à mon avis est bien plus intéressant, et qui, alors je sais pas s'il aura plus de répercussions, mais je l'espère en tout cas. Voilà, un check-it donc peut-être.
Ok, bon bah ça me conforte dans mon truc qui me disait que finalement cette mini je m'en fous, voilà. Ça me conforte un peu là-dessus. Donc,
Un dernier truc aussi qui m'a marqué, c'est que bizarrement, dans les scénarios actuels de Fraction, Iron Man, enfin Tony Stark, a perdu la mémoire. Et là, pas du tout. En fait, Bendis écrit un Stark qui a toute sa tête, et donc il est en totale contradiction avec ce qui se passe actuellement dans Invincible Iron Man. Donc voilà, là ça m'a quand même interpellé parce que c'est un petit souci quand même assez important de la part de Bendis ou enfin voilà quoi, il y a un problème au niveau de enfin l'éditeur n'a pas maté le truc quoi, parce que là il y a un souci quoi. Un souci, c'est pas du tout raccord avec les événements de la série Iron Man, ce qui est un peu dommage quand même. Pour le moment, en tout cas, c'est une erreur de continuité. Donc, est-ce qu'ils vont trouver une manière de l'expliquer ensuite? Bah, je l'espère.
On verra bien. Enfin, tu verras parce que moi, je sais que c'est un truc que je ne lirai pas. Donc, voilà.
Non, mais enfin, on le verra dans Avengers, par exemple, aussi, peut-être.
Oui, peut-être. Oui. Ok, on change et donc cette fois-ci, on va passer à du Vertigo. iZombie numéro 2. Donc, c'est une série qui a commencé le mois dernier. Le premier numéro était à 1$. J'ai décidé de tester pour voir ce que ça donnait. Un dollar, on n'engage pas beaucoup d'argent. Si c'est pas très bien, bah finalement, on peut tout
s'en servir comme papier toilette, comme les futurs X-Men.
Ouh, deux fois la blague. Ouh.
Voilà. Il insiste.
Tu la réutilises.
L'inconscient.
Donc, puisque le premier numéro m'avait intéressé, au contraire, par exemple, de Greek Street qui était sorti il y a de ça un an maintenant et où j'avais pas décidé de continuer parce que ça m'intéressait pas. Là, je me suis dit, je vais donner la chance à la suite de la série. Le premier numéro était pas mal et j'ai vraiment bien fait parce que c'est tout bonnement excellent. Le scénario est de Chris Robertson et les dessins et l'ancrage sont de Michael Red. Alors, c'est vrai que si on est allergique à Michael Red, dommage.
Ouais.
Moi, franchement, ça me dérange pas. Au contraire, là, je trouve que ça se... L'ambiance qu'il donne avec ses dessins et son petit côté légèrement cartoony rend le comique assez féerique, et parce que le thème, alors pour ceux qui connaîtraient pas la série, l'histoire, on suit une zombie qui travaille comme fossoyeuse.
D'accord, ce qui peut être utile quand on est zombie, enfin je sais pas, remarque.
Voilà, et c'est pas un zombie décérébré à la Walking Dead ou comme la plupart des zombies qu'on voit, là c'est une zombie qui est totalement consciente.
Qui a toute sa tête, quoi.
Voilà, qui est de sa
personne. C'est exceptionnel pour un zombie, puisque c'est difficile de conserver toute sa tête.
Bah voilà, et elle a des amis, etc. Et pour garder cet état-là, il faut qu'elle mange un cerveau tous les mois.
Elle a des amis en plus, donc elle pue pas, par exemple?
Non, non, apparemment non. Mais enfin, faut voir ses amis. Un fantôme dans le caveau dans lequel elle réside, plus un terrier-garou. C'est-à-dire
Oui,
que
d'accord, oui, d'accord, ok.
voilà, c'est des gens assez étranges. C'est tout un club de monstres comme ça. Et d'ailleurs, c'est le ton et l'ambiance de la série en général. C'est très comique, c'est très fin, c'est vraiment très très bon.
D'accord, donc c'est totalement. Enfin, on se marre bien en lisant ça, quoi, c'est
Ah ouais,
pas.
franchement, ouais, c'est super agréable. Donc, à la fin du premier épisode, elle avait mangé un cerveau justement pour pouvoir conserver cet état-là. Et comme à chaque fois qu'elle conserve, enfin qu'elle mange ce cerveau, elle a les mémoires et les pensées de la personne qu'elle a mangée à peu près pendant une semaine. Et un peu comme pour ceux qui s'en rappelleraient la série True Calling, où quand un mort lui demandait de l'aider, il fallait qu'elle le fasse pour pas être hantée, et puis elle revenait de 24 heures en arrière. Là, c'est la même chose. Quand elle sent que la personne qu'elle a mangée a besoin d'aide, finalement, elle essaie, enfin en tout cas qui a été tuée de façon bizarre, et là c'est le cas, elle va essayer d'enquêter un petit peu là-dessus.
D'accord.
Et donc, dans cet épisode, on en apprend vachement plus sur un peu tous les personnages. C'est-à-dire qu'on voit que Gwen, pendant la nuit, comme elle dort pas puisque c'est un zombie, elle peint. Et là, elle peint en fait les souvenirs qui lui viennent en mémoire grâce au cerveau qu'elle a mangé. Donc elle peint le visage de l'homme qu'elle a dévoré. Elle peint aussi la personne qui l'a tué,
Oui.
la maison dans laquelle il habite. Et donc c'est une momie qui l'a tué. Enfin, une sorte. Ils appellent ça une momie. Il a plus une tête d'homme invisible entourée de bandelettes, mais bon. On le voit un petit peu d'ailleurs. Et on sent qu'il est vraiment pas clair. Il donne l'impression de connaître Gwen aussi, c'est ça qui est assez bizarre. Bon, on en apprend plus aussi sur les autres personnages, comme Scott, le terrier-garou, qui prennent toujours un malin plaisir à appeler Spot, puisque c'est un chien.
D'accord, ok.
Toujours des petits trucs comme ça. Les deux enquêteurs un peu bizarres, qui enquêtent sur les crimes, on va dire,
Qui le sont tout autant
paranormaux.
d'ailleurs.
Voilà. Diogenes et Horatio. On en apprend un peu plus sur eux, voilà, on apprend un peu sur chaque personne, et notamment sur ces vampires qu'on a vus dans le premier épisode. C'est une espèce de club de vampires féminins qui, alors, ils avaient mordu des gens qu'ils avaient laissés en vie, puis ensuite raccompagnés à leur voiture, etc., sur un terrain de paintball. Et en fait, le terrain de paintball leur appartient. Et finalement, c'est simplement elles qui gèrent le terrain de paintball, elles attirent les gens sur le terrain de paintball, elles en profitent pour les mordre quand ils sont un petit peu éparpillés à se cacher dans la forêt, et puis elles les raccompagnent à leur voiture, et elles prennent juste ce qu'elles ont besoin pour se nourrir, et puis comme ça, on n'en parle plus. Mais il
Et
y en
ça fait
a.
des recharges en plus
Voilà.
pour les balles de paintball.
Et puis il y en a une, bien sûr, qui a trahi la règle, et qui avait mordu un peu trop, qui avait sucé un peu trop de sang,
Oh, j'ai eu peur.
et qui
J'ai eu peur.
finalement finalement a laissé un cadavre derrière, d'où le fait que les enquêteurs s'y intéressent. Donc voilà, franchement, c'est vraiment excellent. Pour moi, c'est définitivement un bail, cette série. Je vais la continuer. Là, chez Vertigo, on a deux trois bonnes séries qui sortent dernièrement, et celle-ci, je vais la continuer parce que je vous encourage tous à la lire. Elle est vraiment, vraiment très, très bien.
Très bien, ok, bah en tout cas ça m'a donné envie de m'y intéresser donc une nouvelle série à découvrir, absolument.
Voilà.
Ok.
Bien, on
On termine.
termine. Voilà, c'est exactement ce que je disais. On termine,
Ben voilà,
vas-y.
oui, parce que je suis Steve cette émission, n'oublie pas. On termine donc avec Adventure Comics, on retourne chez DC du coup. Adventure Comics qui dit sur la couverture Superboy and the Legion, donc la
Numéro
Légion à nouveau.
numéro 12, c'est
Oui,
plutôt plus
c'est
précis.
effectivement, oui, c'est le numéro 12, faut que je le
Ou le
précise.
514, je crois. Puisque quand on parle en double numérotation.
Ouais. Enfin là, c'est pas précisé sur la couve, donc je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est Paul Levitz qui arrive au scénario de Adventure Comics. Et au dessin, on retrouve Kevin Sharp. Alors bon, en fait, moi je pensais avoir un petit peu la suite, ou en tout cas une espèce de crossover entre ce qu'il a fait sur Légion tout récemment. Légion numéro 1 et puis Adventure Comics et avec Superboy et au fait pas du tout, pas du tout. Au fait, il s'agit là d'une aventure qui se situe dans le passé, à l'époque où la Légion fréquentait Superboy, c'est-à-dire
Adventure
bah,
Comics de
voilà,
l'époque.
oui, à l'époque de la jeunesse surtout
Ouais.
de Superman pour ceux qui ne connaissent pas Adventure
Pendant
Comics du tout.
les années 70, ouais.
Voilà. Et bah là, on assiste simplement à un one shot avec au fait Superman qui rend visite aux gens de la Légion. Il se lance une petite liste de choses à faire, au fait, de petits défis à relever, voilà, comme par exemple faire une partie de baseball, aller voir certaines personnes. Enfin bon, bref, plein de petits trucs comme ça, de petits défis marrants. En fait, c'est assez plaisant à lire, mais l'intérêt, au fait, c'est surtout pour ceux qui ont lu le premier Légion de Paul Levitz il y a 2 semaines de ça, et qui n'auraient pas compris qui est qui et qui ne connaîtraient pas trop les personnages de la Légion, parce que c'est vrai que c'était super brouillon, c'était super dur de rentrer dedans pour qui ne connaissait pas la Légion. Et ben là, c'est vraiment le bon numéro à prendre pour, au fait, faire la connaissance des légionnaires principaux, puisqu'ils sont tous présentés. Il y a des scènes vraiment marrantes où, par exemple, Superboy se lance le défi, par exemple, d'embrasser Phantom Girl, etc. Enfin, il y a plein de petits moments sympas, quoi. C'est vraiment des petits moments de vie avec Superboy et la Légion.
J'ai l'impression que c'est un ton beaucoup plus léger qu'est-ce qu'on a vu dans Légion numéro 1.
Ah oui, totalement. Non, mais là, totalement. Là, c'est vraiment un truc... un single, quoi, un one shot, un apéritif qui vraiment présente bien les légionnaires principaux. Donc ça permet effectivement, c'est un bon complément pour ceux qui auraient pris Légion 1 et qui n'auraient pas compris qu'est-ce qui se passait exactement. Bah là voilà, quoi, au moins ça permet de faire connaissance vraiment avec les personnages. Bon, par contre, c'est vraiment juste un check-it, hein, c'est pas un must-buy, ça c'est clair et net. C'est juste un check-it et c'est surtout destiné à ceux qui voudraient se lancer dans la Légion, qui ont pris le premier Légion et qui voudraient vraiment faire plus ample connaissance avec les personnages. Là, c'est vraiment le complément idéal, quoi.
De toute façon, à partir du mois prochain, Adventure Comics reprend sa vieille numérotation, c'est-à-dire que normalement, ça va être le numéro 515 ou 516 qui sort, je sais plus, l'un ou l'autre. Et je pense qu'on en reparlera, puisque ce sera toujours Paul Levitz, ce scénario, et il a décidé de refaire un petit peu les origines de la Légion. Donc,
voilà, exactement, c'est ce qui est annoncé à la fin, en fait. On nous annonce qu'il va raconter dans le prochain comment la Légion a vraiment été fondée. Voilà. Apparemment, il y a encore des choses à découvrir.
Chose que certains connaissent, mais bon, on verra bien ce que Paul Levitz va nous en faire. Mais en tout cas, on peut lui faire confiance, il a vraiment l'habitude des personnages, et s'il y a bien quelqu'un qui les connaît, c'est bien lui.
En tout cas, là, c'est très plaisant. Tu vois, c'est très plaisant à lire. Autant l'autre, j'avais du mal vraiment à rentrer dedans. C'était un peu brouillon. Autant là, vraiment, on rentre vraiment dedans. Par contre, effectivement, il se passe rien, quoi. C'est vraiment un truc introductif.
Ouais. Voilà. Bah, de toute façon, il y a de très très fortes chances que on se fasse le prochain Adventure Comics dans les reviews de la semaine, quand ça sortira au mois de juillet. Mois de juillet. Oui. Un petit peu perdu en début de mois comme ça, on sait plus trop où on en est. Bien, bah c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Comics Weekly avec les sorties de la semaine. Et puis bah comme d'habitude, hein, vous pouvez retrouver le show sur iTunes. Alors je crois que ce sera le dernier normalement qui paraîtra dans le feed de Comic City, comme j'expliquais dans le dernier Comic City, et que normalement ensuite il devra avoir son propre feed à lui sur iTunes, sa propre page, donc vous pourrez vous abonner que à Comics Weekly si vous voulez écouter que Comics Weekly, ou vous abonner à Comic City, ou les deux, hein, si vous aimez écouter les deux. Donc voilà. Comme toujours, vous pouvez nous envoyer les mails à podcast@comiccity.fr. Précisez-nous juste si vous voulez une réponse dans Comic City ou dans Comics Weekly, parce que des fois, selon le thème, c'est pas toujours évident à repérer. Donc si vous voulez une réponse ici, bah, dites que c'est pour Comics Weekly et pour Comic City si c'est dans Comic City. Et puis bah, vous pouvez nous retrouver comme toujours sur Facebook, sur Twitter et puis bah, bien sûr sur le site.
Voilà. Et envoyer des dons aussi pour qu'il fasse de meilleures blagues, sinon je continuerai à faire que des blagues foireuses.
Voilà. Achetez-lui un clown.
Achetez-moi un livre de blagues, je sais pas, ça doit exister.
On se retrouve donc la semaine prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
Allez, ciao.